Salut Karine.
Salut Romain.
Deux membres d'Imaginaire, de retour de Longé Geekfest, on va dire, hein, parce qu'on va en parler dans cette émission.
Oui, il s'est passé
quelques jours
semaine.
Pour s'en mettre. C'est vrai qu'on a fait pas mal de trucs depuis nous à Imaginaire. On vous parlera de ça en début d'émission, on fera un petit bilan.
Tout à fait.
De cette grosse teuf geek à laquelle nous avons participé. Et puis, tu vas nous présenter un bouquin ?
Oui, tout à fait. Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro, publié éditions Argile.
Ok. Et puis ensuite, on écoutera l'interview de Nina McLaughlin, écrivaine américaine, que vous aviez interviewée aux Utopiales.
Où elle était venue. Et autrice de La Volte.
Voilà, c'est ça. Et donc, on s'écoutera ça tout à l'heure. Et on commence avec une nouveauté musicale. C'est sorti il y a même pas un mois. C'est l'album de l'anglais Kevin Pierce. Et l'album s'appelle Science Fiction Ballads for the Lost Generation. Ça doit être nous. Donc, on s'écoute le morceau Moonbeam sur le 101.5.
Poison up, poison up.
Tears donc avec le morceau Moonbeams, extrait de son album Science Fiction Ballad for the Lost Generation. C'est sorti sur le label anglais Castles in Space, que j'aime bien aussi. C'est plus électro d'habitude, mais là, plutôt pop rock cet album. Bon, il a eu l'idée de ce disque en écoutant la BO de Blade Runner par Vangelis. Mmh. Allez, on revient sur l'Angers Geek Fest.
Eh oui, il s'en est passé des choses.
Carrément.
Déjà, de notre côté, on a pu faire deux tables rondes en un week-end, mais également plusieurs
rencontres. On avait
même
plein de gens à nous écouter. C'était cool parce que la concurrence était assez rude à cette heure-là.
Oui, c'est vrai. Hein. Donc, on a eu le plaisir d'être en compagnie de Clément Béhoulier, Tony Meuriot,
Boris Beuzelin, qui nous fait notre affiche.
Boris Beuzelin, effectivement. Florestan Demour, Audrey Plenet, Guillaume Albin.
Guillaume qui a dessiné, qui a dédicacé tout le week-end parce que, voilà, il y avait John Lang aussi de Noël Buck qui était là.
Mais oui.
Et donc, il y avait un esprit nostalgie quand même assez important. Bon, les années 90, ça parlait pas mal à toute une partie du public. Oui. Bon, pas trop à d'autres, hein, je pense. D'ailleurs, il n'y a pas eu tant de stands, par exemple, que ça, qui ont été... Bon, il y a le rétro gaming, quand même, qui était bien 90, c'est sûr. Mais voilà, on a Julien Kahn à côté de nous, qui s'est fait un très joli stand où il a ramené tous ses posters d'ado, ses CD de Metallica, etc. C'était très sympa.
Et oui, plein de rencontres, plein de retrouvailles également.
Ouais, pas d'interview de notre côté. Par contre, Seb de la case de Seb, qui nous a animé d'ailleurs quelques rencontres au café littéraire avec des illustrateurs, a interviewé John Lang, alias Pen of Chaos, donc Monsieur Nullbeck. Et c'est passé hier soir dans les voix du Scénarium. Vous pouvez réécouter ça en podcast, bien sûr, sur le site de Radio J.
Il ne faut pas rater ça.
Donc, 18 000 visiteurs quand même. Hein. Nous, on a vu derrière notre stand qu'il y avait plus de monde encore que les autres années.
Eh ben oui, c'est bien rempli.
Ouais, on pourrait même monter à 20 000. Hein. Il y a encore de la place. Le site s'était agrandi. Hein. Ça, c'était vraiment cool aussi.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'ai trouvé ça plus cohérent. Et puis, la disposition était vraiment bien. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, complètement à l'opposé. J'ai quand même été voir quelques chanteurs et chanteuses et tout. J'ai quand même eu le temps d'aller écouter deux titres de Kickban, hein, qui sont un peu les NOFX nantais, mais qui font des reprises de chansons d'anime ou de jeux vidéo. C'était très sympa. Puis j'ai été voir un petit peu Mimi Fée aussi. Hein. Et puis, mais moi, j'ai même pas vu Hercule de Disney, donc je reconnaissais rien du tout. Et puis, Jean-Paul Césari, qui chantait des génériques plutôt Club Dorothée. D'ailleurs, j'aurais bien aimé pouvoir m'absenter pour aller écouter la table ronde, la conférence de Jackie et Jean-Paul sur le Club Dorothée. Mais bon, voilà, c'est un très grand événement et on peut pas tout voir, en fait.
Oui, ça semble compliqué. Et puis, de toute façon, on avait des choses à faire aussi.
Tout à fait.
Week-end, on était bien occupés.
Ouais, mais ça s'est très bien passé. Donc, on est impatients, en fait, d'y retourner.
Ben ouais. Fin...
Que l'année prochaine, il y a déjà les dates, hein, Karine. Mm-hmm. Ce sera le même week-end, en fait, en gros.
Oui, ouais, c'est ça. J'ai pu vérifier également le 6 et 7 avril 2025.
Ouais, et puis la thématique nous parle, en fait.
Oui, ben, les super vilains.
On ne sait pas encore trop ce qu'on va vous proposer, mais...
Je pense qu'on aura un panel d'idées d'ici là.
Ouais. Donc rendez-vous est pris pour l'année prochaine au prochain Angers Geek Fest. On reste dans la thématique des années 90 avec le morceau que je vais vous proposer tout de suite. On va revenir aux bases du Dungeon Synth. C'est une musique que je passe souvent dans cette émission. Et on va dire que officiellement cette musique a débuté en 1993.
D'accord.
avec la première démo de Mortis, qui était un monsieur qui sortait du groupe de black metal Emperor, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et bon, il avait un petit peu plaqué le rock'n'roll pour aller faire du synthé dans son coin. Et c'est comme ça un petit peu que ça a commencé, on va dire. Enfin, alors il y a Burzum aussi à la même époque qui fait un petit peu le même genre de truc. Et on va s'écouter un extrait d'un des premiers albums de Dungeon Synth. C'était An Always Silent du groupe autrichien Pazuzu. Pazuzu, c'était aussi des gens qui venaient de la scène black metal. Et là, donc aujourd'hui, quand on réécoute cette musique, ça s'appelait pas du Dungeon Synth à l'époque, mais c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire de faire de la musique d'inspiration médiévale avec quand même pas mal de folklore, de fantastique, voire un peu de satanisme aussi. Hein. C'était des gens qui venaient du black et tout. Et donc, on va s'écouter... Il y a un morceau en français, en fait, parce qu'il parle beaucoup sur ce disque aussi. Il y a un morceau qui s'appelle La Baronesse et le Démon. Et on s'écoute ça à 21h11 sur Radio G. Les enfants sont couchés, donc on peut écouter un petit peu les bêtises de Pazuzu dans Imaginaire sur le 101.5.
Une oreille d'un fou, je pourris magnifiquement. Pour une vie de mensonges purs, baronesse d'un château de rêve, dans l'époque de la lumière où l'idée devient l'action. Mon sort de tournée mortelle, la jeunesse jusqu'à l'infini. D'innombrables saisons ont vu leur fin, et j'étais jadis une baronesse vertueuse, aveuglée par tes rayons trompeurs et tes dogmes impuissants. Une nuit, lors de la saison froide, les griffes obscures d'un malfaiteur vinrent à mes yeux croyants et m'enterrèrent dans ce cercueil de pierre d'où je rêve aussi long. Maintenant, la lune est à son point culminant et je t'invoque, puissant maître Pazuzu, pour qu'on puisse, main en main, régner le monde profane. Où es-tu? Mon âme malheureuse clame sa délivrance. Où es-tu? Mon corps sanglant, pleurant de désir, se déforme pour toi.
Je t'écoute, âme torturée.
Ah, sauveur d'une dimension lointaine, comment j'ai attendu ton arrivée.
De loin je suis venu, les mers j'ai traversé, appelé par ta voix si triste, quel est ton désir?
Pazuzu, arrache mon esprit de ces murs pourris, montre-moi la porte de l'extase sans limite.
Volons, volons, sois porté par ta croyance immortelle. Laisse ton désir devenir tes ailes.
Imaginaire sur Radio G avec la jolie voix de Empress Lilith. Et il y a un autre membre du groupe qui s'appelait Trifixion of the Haunting. Ouais, ça va chercher loin. Et que dire, c'était voilà, il y aura 3 albums dans les années 90 et puis après certains membres du groupe iront former le groupe Summoning, qui est beaucoup plus connu dans la scène black metal d'ailleurs. Et justement, ça fait petite. On reste un peu dans le médiéval fantasmé, Karine, avec le livre dont tu vas nous parler tout de suite. Ah, on va s'écouter l'interview. Il faut que je rappelle, hein, on va s'écouter l'interview de Nina McLaughlin après ta chronique, mais avant, voilà, on parle de Jean Laurent Del Socorro.
Et avec Peine de mots perdus, Jean-Laurent Del Socorro nous immerge de nouveau dans cet univers foisonnant qu'il a exploré dans plusieurs de ses romans. Donc, il y a Royaume de vin et de colère, La guerre des trois rois et du roi Je serai l'assassin, mais également dans sa nouvelle Noir et le sceau de l'enfer, publiée chez Didascalie. Donc, dans Peine de mots perdus, il se concentre sur un personnage, Axel de Torrenc. Si je prononce bien, je ne sais jamais.
Donc on descend un petit peu vers l'Espagne.
Eh ben non, on va se retrouver à Rennes.
Ah bon, ok.
Je le dis par la suite, tu m'as devancé. Donc cette jeune femme est apparue dans Royaume de vent et de colère et dans sa nouvelle publiée chez Didascalie, Noir et le sceau de l'enfer, et que je vous explique, plusieurs de ses romans sont dans le même univers et chaque roman il développe un axe ou un personnage, voilà. Ce qui fait que tous ces romans peuvent se lire indépendamment les uns des autres, mais on peut y voir des liens, retrouver certains personnages. Donc, dans Peine de mots perdus, on va donc être plongé à Rennes, en 1593, pour suivre Axel à travers ses voyages, aventures et alliances, au travers d'une quête mêlant histoire et fantastique. C'est de la fantaisie quand même historique. C'est vraiment l'univers qu'il passionne et dont il est expert finalement.
Donc c'est
Mais il y a une touche de fantastique.
Voilà, c'est ça.
Puisqu'au début, on la découvre capitaine du chariot, une compagnie de mercenaires qui vont être capturés, ne laissant d'autre choix à Axel que d'accepter une mission pour leur libération. Elle va aller en Angleterre pour retrouver le sceau de l'enfer, un argon, une sorte de disque noir, et c'est ça l'élément un peu magique. Parce que justement, a priori, il y aurait des sacrés pouvoirs. Et donc elle fait équipe avec Francis Drake au nom de la couronne d'Angleterre. Et la suite n'est pas en reste, on va en découvrir davantage sur cet Arbon au fil des pages. Et on la suit aussi dans son évolution, car Jean-Laurent Del Socorro prend le parti de nous faire explorer la vie d'Axel sur 3 périodes bien distinctes de sa vie, divisée en 3 actes, un peu de théâtre. 3 histoires donc, où le fil conducteur restera Axel, et dont le premier acte porte le nom de sa nouvelle sortie chez Didascalie, que je vous redise le titre, Noir et le sceau de l'enfer, puisqu'il l'a remanié et allongé. Et on va donc voir Axel passer par plein de statuts sociaux, capitaine, aubergiste, chevalière, et traverser avec elle ses doutes, ses craintes, qu'importe le sujet d'ailleurs, puisque cela touche à toutes les sphères de sa vie. De son rôle de soldat à celui de capitaine, mais aussi son rôle d'épouse et de mère. Jean-Laurent Del Socorro nous propose un récit touchant, féministe, car à nouveau les femmes sont au cœur de son roman. Les personnages sont très bien travaillés, les relations entre eux nous offrent un regard très humain. On s'identifie facilement à Axel, je trouve. Et il met en avant de nombreuses références historiques qui s'imbriquent au roman de façon naturelle à travers les personnages. Donc on va avoir Shakespeare, notamment, Christopher Malraux, Francis Drake en fait partie, Walter Raleigh, je ne sais pas trop comment ça se prononce, John Dee et bien d'autres. Et, pardon, on va avoir quelques explications à la fin sur la réinterprétation qu'il en a fait. Donc c'est super intéressant, on a en plus le travail d'écriture, finalement, un aperçu. À la fin de l'ouvrage, et pour la première fois en français, un pamphlet féministe pour la protection des femmes, de Jane Angers, est traduit. La plume de Jean-Laurent Del Socorro nous emporte, nous distrait le temps de la lecture, brillamment, tout en faisant passer des messages d'humanité avant tout, nous donnant envie de nous informer sur l'histoire en utilisant la forme du théâtre et mettant une touche d'humour. Et si vous ne le connaissez pas encore, il va falloir y remédier. Hein. À chaque livre, il réussit à nous transmettre énormément de passion et de bienveillance. On sort toujours de la lecture de ses romans avec l'envie d'apprendre, de s'informer, de découvrir le monde qui nous entoure. Et je vous laisse avec un groupe de rock mexicain, The Warning, composé de 3 sœurs et leur chanson Sick, de leur dernier album sorti en février 2024. Et on est toujours sur Radio G.
Son de The Warning, comme et d'habitude, oui. Avec Karine, du gros son.
Et un petit clin d'œil justement à Valentin qui m'a fait découvrir ce groupe parce que je ne le connaissais pas.
Ben non, en fait, c'est des stars au moins au Mexique, hein, d'où elles viennent, mais. Là, elles font une tournée internationale qui passe par Paris quand même jeudi. Donc c'était le moment de les passer. Elles seront à l'Alhambra jeudi et elles reviendront en France pour le Main Square Festival début juillet. 3 sœurs, ah, donc, j'ai vu que quand elles ont formé leur groupe, la plus jeune avait 7 ans quand même.
Ah oui, carrément. Ah, j'ai pas eu connaissance de ça. Je savais qu'elles ont formé le groupe en 2013. Mais c'est assez étonnant.
Elles ont commencé par faire des reprises sur YouTube. Ouais. Et puis, voilà, ça a cartonné. Et puis après, elles ont commencé à composer. Et puis, bah voilà, maintenant, il y a le 4e album qui arrive là. Et elles ont, je sais pas trop comment dire, elles étaient influencées par Rock Band. Enfin, elles ont commencé à jouer en s'entraînant sur Rock Band, qui Peut-être un jeu vidéo, je crois. Hein,
ça, je sais pas.
Et en fait, quelques années plus tard, eh ben, leurs morceaux ont été inclus dans la version de Rock Band en 2018.
Oh bah c'est génial, comme quoi les femmes peuvent tout faire. Un petit mot féministe.
Pour changer. Bon, bah tiens, puisqu'on parle de féministe, je sais pas, on va passer à l'interview de Nina McLaughlin, qui était aux Utopiales, donc pour défendre son roman.
Oui, son dernier roman, c'est Sirène Enchantée.
Le seul qui était sorti en français, hein, je crois, chez La Volte.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ils ont eu c'est un bon choix éditorial pour le coup.
Et l'interview, par contre, est en anglais. Alors, on vous prévient. Donc, on avait une traductrice. Stéphanie, je crois. J'étais pas là, moi.
Oui, c'est Stéphanie Chaptel.
Ok. Donc, j'ai laissé. J'ai coupé, par contre, la traduction des questions en anglais. Donc, j'ai laissé les questions en français de Pierre-Marie. Réponse en américain. De Nina McLaughlin et la traduction par la traductrice qui
et donc elle va parler de son roman donc Sirène debout, Ovid réenchanté.
On s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5.
L'équipe Imaginaire, comme chaque année, est présente aux Utopiales 2023. Pour assister aux tables rondes, mais surtout pour rencontrer des auteurs que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer, et c'est le cas aujourd'hui puisque nous sommes en présence de Nina McLaughlin. C'est un véritable plaisir de rencontrer cette autrice qui a sorti 4 livres en langue anglaise, mais qui est relativement inconnue du paysage français puisque un seul de ses titres a été traduit à La Volte. Il s'agit d'un roman qui est une réinterprétation des Métamorphoses d'Ovid. Nina, autrice donc, d'abord journaliste, tu as mis ta carrière de journaliste un peu en pause, un peu entre parenthèses, avant de partir sur un métier manuel, charpentière, et puis tu y es revenue. Tu es américaine, tu travailles à Boston, et l'ensemble des questions que je vais te poser vont être traduites par Stéphanie, qui est avec moi et qui a la gentillesse d'être la traductrice, vu mon niveau d'anglais. Stéphanie, tu es, toi, autrice, pour le coup, spécialisée dans la pop culture, et puis traductrice dans l'imaginaire depuis quand même un certain nombre d'années. C'est un véritable plaisir de vous avoir toutes les deux.
Merci.
Ton œuvre récente donc porte sur la réécriture des Métamorphoses d'Ovid. Tu indiques dans les bibliographies que j'ai pu trouver de toi que c'est un de tes livres préférés. Pourtant, ce n'est pas ton premier roman. Est-ce que c'est une sorte de retour aux sources?
I think so. I think that it's some of these myths, I think, have been with us the whole time. You know, they were sort of born knowing them. And I loved these stories as a kid, as a child. I really sort of gravitated to the mythology. And so it feels like these stories have been living inside me sort of all along. And so it wasn't an intention. I didn't sort of think, oh, I want to rewrite Ovid. I want to retell these stories. But I think they had been a presence in me for so long that they just sort of came out.
Okay. En fait, oui, effectivement, parce que elle a grandi avec Ovid, elle a grandi avec ses mythes. C'est des histoires qu'elle a entendues enfant, qu'elle a vraiment adoré enfant, ado, qui sont nées en elle, qui sont restées présentes en elle, et qui ont évolué avec elle en permanence. Et donc, quand elle a voulu écrire, elle s'est pas dit je vais réécrire les Métamorphoses d'Ovid. C'est juste, voilà, c'est arrivé et c'est comme ça.
Donc rien n'empêcherait que tu réécrives des réinterprétations d'autres mythes antiques que tu as pu rencontrer. D'ailleurs, tu dis que ça fait partie de ton enfance, les Métamorphoses d'Ovid. C'était familial, l'histoire racontée quand tu étais petite, ou plutôt scolaire?
It was both. I did not grow up in a religious household. There was no sort of religion. And so these stories had sort of a sacred quality to me. And so some of it was books that I had as a kid. And then in high school, started studying Latin and started taking classes about Greek and Roman civilization. And I think that's when it sort of took hold in a deeper way, and then continued studying it in college. So it's sort of a combination of both childhood reading and familial exposure, and then also my education.
C'était les deux, parce qu'elle a grandi dans une famille qui n'est pas du tout religieuse. Donc, quand elle a entendu ses contes et qu'elle les a lus, ça avait un côté un peu sacré sans être réellement religieux. Et elle les a lus enfant parce qu'elle avait les livres, elle s'est plongée dedans. Et après, elle les a redécouverts au lycée en prenant des cours de latin, en les découvrant. Et elle a été encore plus loin à l'université quand elle a continué ses cours de latin et de culture grecque et compagnie. Et c'est en fait c'est ce mélange d'histoire familiale, de lecture d'enfance et d'éducation magnifique qu'elle a eue qui font que ça l'a imprégnée et qu'elle a baigné dedans.
Mais entre toutes ces études et tout cet apprentissage à la fois familial et scolaire, et puis le moment où tu écris ce livre-là, il y a une grosse coupure qui est celle de ton passage à un métier plus manuel. Pourquoi ce besoin d'être parti sur un travail manuel et plus intellectuel ?
It was simply that I was so sick of being in front of a computer screen. Like I felt like my soul was dying, and I wanted to do something that had to do with material reality. And so it was a very unexpected veering. I had answered an ad that I saw on the internet saying carpenter's assistant sought women strongly encouraged to apply. And as a miracle, ended up getting the job. So it was, again, not something that I had anticipated in my life. But it was a beautiful combination to sort of both work with the hands and with the mind.
En fait, c'est simplement qu'elle était malade, physiquement malade d'être tout le temps, toute la journée devant l'ordinateur et qu'elle en pouvait plus, elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains, de créer de ses mains. Et soudain, elle a vu une annonce sur Internet, charpentier cherche assistant, les femmes sont fortement encouragées à faire une se présenter et elle a réussi à avoir cet emploi et ça lui a permis de elle n'avait pas prévu de faire ce virage complètement à 90 degrés mais c'était vital et ça lui a permis de mettre en relation à la fois la création de son imagination et de ses mains et c'était une fusion qui lui a énormément apporté.
Donc là tu as fait cette parenthèse de travail manuel pour te remettre dans, enfin, retour au bien-être. Merci. Et tu reviens avec un roman qui est aussi un retour aux sources, mais qui est extrêmement clivant. Tu réadaptes un mythe antique, à la limite du sacré, d'une version extrêmement féministe dans l'air du temps. Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de t'inscrire dans un mouvement hyper féministe, ou est-ce que c'est juste une envie de répondre à un monument de ta jeunesse ?
I didn't know what was happening, you know, that it was not a decision to retell this. I didn't have a message when I started. It wasn't this sort of deliberate, I'm gonna rewrite Ovid in this sort of feminist way. Not at all. It was something that once I started listening to these voices, they just kept speaking. And it was as though they sort of rushed out of me. So it sort of felt beyond myself.
En fait, non, parce que je n'avais pas de message à faire passer, je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de particulièrement féministe, mais simplement quand je me suis lancée, j'ai entendu toutes ces voix au-delà de moi qui avaient besoin de parler et de faire passer leur propre message, et voilà ce qui est arrivé. À travers Sirène debout, est-ce que c'est toi qui racontes ta version de Métamorphose d'Ovide, ou est-ce que ce sont les métamorphosés d'Araphné, Arachné, Io et les autres qui parlent avec ta voix ?
D'une certaine manière, est-ce que c'est une trahison ou une sublimation de ce texte-là ?
In some ways, I think of it as a conversation with Ovid, that it is sort of a dialogue, not so much an update. And not to say, oh, Ovid was wrong, because what a beautiful text the Metamorphoses is. It's not, he wasn't wrong. It was this sort of intimate experience with Ovid and with the text. And thinking about the voices coming through me, it I felt like I was not part of it. So it doesn't, in some ways it doesn't feel like my voice. Yeah. Obviously it is. I was the one sitting there typing. But it does really feel like it was the voices of these figures.
Alors, c'était plus une conversation avec Ovid. C'est pas une trahison, parce qu'on peut pas dire que Ovid est à tort, parce que le texte des Métamorphoses est vraiment tellement beau qu'on ne peut pas. C'est vraiment une conversation avec lui, avec ses idées. C'est vraiment un dialogue. Et elle, en fait, quand elle a écrit le texte, bon, c'est elle qui l'a écrit, parce que c'est elle qui était physiquement en train de taper, mais elle avait toutes ses voix, toutes ses figures en elle. Elle avait l'impression que ce n'était pas elle, c'était ces figures mythiques qui parlaient à travers elle.
Ça rejoint un courant littéraire, ou en tout cas une théorie littéraire, qui parle là de, oui, de transsubstantation, où l'auteur s'efface derrière les... Excuse-moi. Où, en gros, l'auteur s'efface derrière la volonté, ce qu'on appelle les créatures de papier, qui sont celles qui s'écrivent toutes seules. Mais...
Ok.
Yeah, I mean, that's... That is definitely how it felt. I felt like I went away, my own self. I was gone, to the point where I don't even remember really writing it. It happened quickly in 3 months, and I don't actually remember writing it. So when I finally did reread it, it was this sort of this surprise to see what had happened.
C'est tout à fait ça. C'est, elle s'est complètement effacée. Elle n'était plus du tout là. Et c'est à tel point que ça s'est passé très vite. Elle l'a écrit en 3 mois. Et elle ne se souvient plus du tout de l'acte d'écrire. Et quand elle le relit, certains textes sont des vraies surprises. Elle est stupéfaite parce qu'elle...
Donc on n'a plus qu'à espérer une autre coupure pour un métier manuel pour qu'elle nous ressorte un autre texte aussi fabuleux. On va passer au portrait chinois.
Questions.
Si jamais tu pouvais être une créature fantastique de quelque mythologie que ce soit, laquelle voudrais-tu être et pourquoi?
Cool question. the first thing that comes to mind, I love centaurs. Mm-hmm. And I don't know. I mean, I don't know if there are female centaurs, but I do love this idea of being like a giant horse human combination. There's something very powerful about that. And I think of them maybe wrongly, but I think of them as kind of gentle and wise as well.
En fait, la question est super. Elle adore les centaures. Elle, donc elle sait pas s'il y a des centaures femelles, mais elle adore cette idée d'être à la fois un cheval géant et un être humain. Et cette combinaison puissante et forte, et elle les imagine à la fois sages et... Donc voilà, à cet ordre.
Demain, le père Porcher t'offre un objet de la pop culture, celui que tu veux. Lequel voudrais-tu avoir?
Maybe a painting by Andy Warhol, if that's possible.
Peut-être une peinture d'Andy Warhol, si c'est possible.
Pas de baguette magique, pas de sabre laser, pas d'anneau unique.
No magical wand, no.
No, I mean it's I, you know it's No, do you have something in mind?
C'est pas moi qui suis interviewé.
It's not for one interview.
Notre échange touche à sa fin, à mon grand regret, et on arrive sur la question la plus difficile. Quelle musique?
So which song to end?
Yeah.
I would say there's a quote from it that opens the book, which is David Bowie's song, mm-hmm. Changes.
Yeah.
I don't know if you guys know the song.
Yeah.
But you know that it's turn and face the strange. And metamorphosis means changes. Mm-hmm. So that would be okay. the song.
So il y a une chanson de David Bowie qui dont une des phrases commence le livre Sirène debout qui s'appelle Changes, et il y a une des citations, celle qui est dans le livre, qui est Turn and face the change, et la métamorphose, c'est ça, c'est affronter le changement.
Merci beaucoup.
Merci.
Un énorme plaisir.
Merci. Okay.
don't know what I was waiting for. And my time's running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes. Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Where the shame you've left is up to her next to me.
Choisi souvent par les gens à qui on dit qu'est-ce que vous voulez comme morceau pour clôturer cette interview.
C'est peut-être une inspiration, une grande inspiration de nombreux auteurs et nombreuses autrices.
Un petit peu ouais, de la science-fiction aussi. On a quand même Life on Mars. Etc. C'est l'heure de notre agenda. On approche de la fin de l'émission. On a pas mal de trucs à vous annoncer. On va les faire dans l'ordre peut-être.
Oui.
Alors samedi prochain déjà, nous on participe à Tour de rôle. Alors à Tour de rôle, c'est quoi ? C'est le rendez-vous mensuel à la bibliothèque médiathèque de Belbeil sur le jeu de rôle. Ça se fait un samedi par mois. Ça avait été inauguré en septembre dernier, je crois, par les Arts ludiques. Et puis après tous les mois, c'est soit des associations, soit des MJ indépendants, on va dire, qui viennent faire essayer des jeux de rôle. Donc c'est de 14h30 à 17h, c'est entrée libre et nous on proposera deux tables, comme d'habitude. Donc moi je proposerai Dungeon Crawl Classics, donc on va dire un jeu OSR, Old School Revival, avec voilà, un peu une thématique un petit peu pirate, île au trésor, parce qu'il y aura Valentin, lui qui propose de son côté Steam Sailors. Et il m'a expliqué que c'était du steampunk avec des pirates. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais me mettre un peu dans la même thématique que toi. Donc, moi aussi, ce sera une aventure maritime. Valentin, donc lui, Steam Sailors, c'est adapté d'une trilogie de romans de E.S. Green.
Elias Green, sinon.
Ouais, Steam Sellers, qui était sorti chez Gulfstream.
Oui.
Valentin, il connaît bien apparemment cette écrivaine, parce qu'il lui a dit, tiens, je vais faire une partie de jeu de rôle adaptée de tes romans. Et elle lui dit, ah ouais, bah tiens, mais ça et tout, apparemment, ils correspondent un peu. Donc c'est une création imaginaire, on peut dire. Intéressant.
Tout à fait.
Les romans sont à partir de 13 ans.
Oui.
Donc voilà, on aura 5 places, je pense, à partir de 13 ans. Ah,
plutôt 6.
Ouais, plutôt 6, tant mieux. Ouais. Et puis, de mon côté, 6 places aussi, Dungeon Crawl Classics. Bon, c'est un petit peu violent, donc on va dire à partir de 6 ans et demi, quoi. Non, je crois qu'on a mis à partir de 10 ans.
À partir de 10 ans, oui.
Je me rappelle plus du numéro de téléphone, mais il faut mieux quand même téléphoner pour réserver sa place.
Mais je crois même que c'est sur inscription, hein, d'ailleurs.
Alors non, en fait, il reste des places et qu'il y a des gens qui arrivent les mains dans les poches, est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'il reste des places? Oui.
Oui, mais vaut mieux s'inscrire justement pour avoir une place.
Voilà.
L'intérêt, c'est de choisir le jeu.
Alors samedi, c'est aussi le BBB. Est-ce que tu sais ce que c'est que le BBB à Angers?
Alors non, pas du tout.
C'est le Big Book Sale. C'est la braderie de la bibliothèque anglophone. Il y a donc, avec plein de livres, si vous aimez lire en anglais. Hein.
Ben oui, il faut avoir un certain niveau. Ou sinon...
ouais, ça dépend peut-être si tu prends de la jeunesse, non? Je sais pas.
Ouais. Ben, ça dépend de ton niveau de base, je pense.
Ok.
Mais certainement qu'il y a... sans doute des livres qui sont peut-être plus pour les débutants.
Donc des milliers de livres à partir de 2 euros et ce sera aux horaires d'ouverture de la bibliothèque, donc de 10h à 18h. Ensuite, imaginaire, on refait une table ronde sur l'intelligence artificielle et ce sera à l'Université d'Angers.
Oui, c'est au campus de Belbeil. Et du coup, oui, ça s'intègre dans le cycle en fait de conférences universitaires. Ça va être à 18h et ça va être sous la thématique qu'on lit à parle entre linguistique et mimétisme. On va sans doute parler de robots. Et donc, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous Patrick Couton, traducteur de Terry Pratchett. Chez La Talente. Donc voilà. Le reste, ça reste un petit peu en surprise.
Je me demande s'il a pas traduit aussi Michael Moorcock, non?
Alors ça, je sais pas. Je pourrais pas dire. Mais en tout cas, elle promet d'être très intéressante. Donc, il faut venir. C'est en entrée libre, complètement gratuit. Donc, voilà.
Et puis, quelques jours plus tard, une partie de l'équipe d'Imaginaire se déplacera à Ouest-Hurlant.
Voilà, tout à fait. Trois membres de l'association qui se déplaceront
à Rennes.
Alors, Ouest-Hurlant, oui, c'est un festival rennais. Donc les 4 et 5 mai, et ça va être sous le thème « Depuis les marges ».
Ça, c'est original. Faut m'expliquer.
C'est un petit peu la question autour de la place de chacun, qu'il soit auteur ou non. Et puis, on va traiter de tout ça, en fait, sur différentes formes et sous différentes tables rondes. Il y aura plein de gens intéressants et plein de maisons d'édition aussi.
Dont Imaginaire.
Oui.
C'est sur un campus aussi, ça, non? Je dis des bêtises.
Oui, c'est ça, c'est à La Paillette.
Ok.
Alors, est-ce que c'est sur un campus? Je ne sais plus.
Bon.
Mais en tout cas, c'est à La Paillette.
Ouest, vraiment, à Rennes.
Retenez Paillette.
Et puis, le Salon Imaginaire, on vous en a déjà parlé.
Mais oui, le 18 et 19 mai, il ne faut surtout pas oublier ça.
Au Salon qui annonce qui? La liste des invités va tomber très très bientôt.
Oui, très prochainement. Et puis la programmation suivra.
Voilà, c'est ça. Avec les éditeurs qui seront là. Mmh. Et puis ouais, quand tu dis programmation, c'est un peu plus les animations, les tableaux.
Exactement.
Ok.
Un beau programme aussi qui vous attend.
Bon, et ben nous, on se retrouve dans 2 semaines. On aura peut-être l'interview de Jean-Luc Oudu de Banquise et Comète, qui est en train de réaliser une exposition qui s'appelle Le Royaume sous la montagne, qui sera visible sur le site Troglodyte et Sarcophage à Douai-la-Fontaine. Oui. Donc, je pense qu'on parlera de ça. Ce sera le jour de l'inauguration de cette expo. Ce sera le 30 avril, donc dans 2 semaines. En musique avec Landsrad, que je voulais passer il y a quelques semaines quand on parlait de Dune, le film de Denis Villeneuve. Donc un nom de groupe et un groupe qui fait tout le temps référence en fait au roman de Frank Herbert. Et là vient de paraître leur troisième album, Mark of the Worm. Et donc l'album est inspiré par Les Enfants de Dune, le troisième roman dans la série. Et on écoute le morceau An Ecological Shift. Et tout ça, ça va nous emmener jusqu'à 22h sur Radio G. Et nous, on vous dit à bientôt.
Allez, salut.
Radio G 101.5 FM.
Hey, that's that nigga. Off of your knees, it's trash in your lips.